Passe à la revue de presse avec vous, Frédéric Pommier, bonjour.
Bonjour Amélie Perrier et bonjour à tous. Ce samedi, c'est le premier jour des vacances pour les écoliers, pour bon nombre de salariés également. Si vous êtes concerné, si vous ne savez pas encore où partir afin de prendre l'air cet été, plongez-vous dans la presse. Un supplément spécial du Parisien ce matin nous propose des bons plans de dernière minute pour passer ses vacances en France. Par exemple dans un club à Begmail, en face de Concarneau, ou à Guidel, près de l'Orient. Tiens oui, pourquoi pas la Bretagne. Un numéro spécial tourisme également dans l'Obs. Magnifique numéro qui là encore fourmille d'idées de destination. L'Auvergne, la Provence, le Pays Basque, la Bretagne. Tiens oui, pourquoi pas la Bretagne. Dont il est également question dans Le Monde, qui nous invite à arpenter la grandiose côte de granit rose au nord de la région des églises de Lannion, aux plages de sable fin de Trébeurden. De la beauté spectaculaire de l'île Renote aux maisons à pans de bois de Tréguier, un décor aussi changeant qu'éblouissant. Un vrai bol d'air, en toute saison, nous promet le quotidien.
Oui, mais il faut faire attention.
Attention au soleil. Et ceci en étonnera peut-être certains, c'est à lire ce matin dans Ouest France, une alerte de l'assurance maladie. La Bretagne est la région de France qui enregistre le plus grand nombre de mélanomes ou cancers de la peau. 64 décès en moyenne par an, presque 3 fois au-dessus de la moyenne nationale. Et la raison, c'est qu'on ne se méfie pas assez. Parce que le ciel y est parfois couvert et parce que le climat y est parfois très doux, on oublie de se tartiner de crème solaire en oubliant que les rayons UV traversent les nuages. Un dermatologue insiste sur la nécessité de se protéger. Normalement, un tube de crème solaire ne devrait durer qu'une semaine. C'est vrai, c'est un coût, mais c'est un coût bien moindre que celui d'un cancer. Protégeons-nous, protégez-vous, même à Guidel ou sur la grandiose côte de granit rose. Il est aussi question de santé dans le Parisien, où l'on découvre l'existence d'un objet qui permet à 250 personnes en France de vivre à peu près normalement. 250 diabétiques équipés d'un implant, une pompe à insuline au niveau de l'estomac, des personnes qui souffrent d'une forme rare de diabète, leur peau forme comme une barrière infranchissable pour l'insuline. Les traitements classiques n'ont pour elles aucun effet, d'où la nécessité de ce dispositif commercialisé depuis le début des années 1990. « Ma vie dépend de cette pompe interne », explique Alexandra Rousseau, 49 ans, mère de famille, conseillère bancaire installée près de La Rochelle. Or, tout comme les autres patients, elle a appris que cet implant, qu'il faut changer régulièrement, ne serait bientôt plus fabriqué. La société Medtronic, transnationale états-unienne, a acté cette semaine l'arrêt de la production des pompes à insuline. Medtronic vient de nous condamner, commente Alexandra. Ma vie va redevenir ce qu'elle était avant, c'est-à-dire un cauchemar. Angoisse similaire chez une quinquagénaire vivant en Occitanie. Vais-je pouvoir continuer à travailler, à voir grandir mes petits-enfants? La batterie de ma pompe montre des signes de faiblesse. Elle peut s'arrêter cette nuit ou demain? Pour ces diabétiques, sans ce dispositif, la seule solution adaptée serait une greffe de pancréas. Ils en veulent énormément à la société américaine. Colère également du chef du service endocrinologie au CHU de Montpellier, qui accueille de nombreux implantés français. Il évoque un possible scandale sanitaire. Mais ce matin, bien évidemment, c'est la politique qui occupe l'essentiel de la presse.
Avec un visage qui s'impose à la une de la quasi-totalité des journaux.
Celui du successeur d'Édouard Philippe à Matignon, Jean Castex, cet inconnu, comme le souligne l'Ardennais, cet inconnu devenu Premier ministre, abonde le Courrier de l'Ouest. Tandis qu'au Nice, ce matin, le Parisien, Presse Océan, le présente comme l'inconnu de Matignon, d'où cette question des dernières nouvelles d'Alsace. Qui êtes-vous, monsieur Castex? Mais comme le disait Jean-Pierre Raffarin, en devenant lui-même Premier ministre, la citation est à lire dans Figaro, « La notoriété est une question réglée le jour de la nomination. » La preuve, ce matin. Partout, vous lirez des portraits de cet énarque passé par la Cour des comptes, qui a occupé maintes hautes fonctions de l'État, mais toujours côté ombre, comme à l'Élysée, dont il fut secrétaire général adjoint sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Pour la République du Centre, c'est un technocrate de droite, et pour la Marseillaise, il est la droite sans complexe. Quant à la Dépêche du Midi, elle rappelle que Jean Castex, maire de Prades depuis 2008, est d'origine gersoise et qu'il s'est fait connaître en pilotant le déconfinement du pays, ce qui donne ce jeu de mots dans Libération. Macron confine Matignon, selon le journal. Le choix de cet inconnu est avant tout le signe d'une reprise en main du chef de l'État en vue de la présidentielle de 2022 pour Laurent Geoffrin qui signe l'édito. C'est lui-même, Macron, qui incarnera, lui seul ou presque, les décisions qui seront prises dans les 2 ans qui viennent. Même sentiment dans le Figaro, sous la plume de Guillaume Tabar, pour qui Jean Castex, loin d'être un général en chef de la majorité, fera surtout fonction de secrétaire général du gouvernement. En somme, un collaborateur Et sa nomination montre qu'Emmanuel Macron est désormais en campagne, comme le souligne le titre de l'édito de La Croix. Campagne en ligne droite, peut-on lire notamment dans Ouest France, qui estime qu'avec Jean Castex, le nouveau chemin ne passera ni à gauche ni au vert. Dès lors, certains s'étonnent. À l'instar de Jean-Michel Servan dans Midi Libre, là où on pronostiquait une femme plutôt centriste, à forte identité écologiste et sociale, pour remplacer Édouard Philippe, le président de la République sort du chapeau un haut fonctionnaire gaulliste ex-lieutenant de Nicolas Sarkozy. C'est à se demander, suggère l'éditorialiste, si Emmanuel Macron a retenu quelque chose du résultat des élections municipales. Reste maintenant une autre inconnue. Qui entrera donc au gouvernement Castex? C'est la question que pose à sa une l'Alsace. La réponse, on devrait l'avoir d'ici mercredi.
De son côté, Marianne nous parle d'argent.
Et de fièvre spéculative. Pour tuer l'ennui lors du confinement, de nombreux jeunes se sont mis à ouvrir des comptes en bourse dans l'espoir de faire fortune le temps d'une pandémie. Pour beaucoup, en manque de paris sportifs avec l'arrêt des compétitions, ils se sont reportés sur le boursicotage en ligne. Mais on ne s'improvise pas boursicoteur, attention aux dégâts financiers et humains. Et l'article évoque l'histoire d'un jeune étudiant américain de l'université du Nebraska au début du mois de juin. Il a découvert sur son application de courtage un solde de trésorerie négatif de plus de 730 000 dollars, alors qu'au départ il n'avait misé que 16 000 dollars. Le 12 juin, cet étudiant a mis fin à ses jours, expliquant dans une lettre d'adieu qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait réellement comme opération en bourse après son décès. On a appris que son solde négatif n'était en fait que temporaire. Son décès, lui, ne l'est pas. À propos des conséquences de la pandémie, plusieurs journaux s'inquiètent. Pour les discothèques, ce matin, elles ne peuvent toujours pas rouvrir. Certaines seraient à l'agonie. En revanche, sur les bords de Loire, les guinguettes ont pu rouvrir, se réjouit la République du Centre. Enfin, autre bonne nouvelle, c'est à lire de nouveau dans Ouest France, dans le Finistère. Une docteure en biotechnologie vient d'inventer le thé jaune, une recette inédite de pastis breton. Les premières bouteilles seront mises en vente au mois d'août. À boire, sans oublier la crème solaire. Vive la Bretagne, vive les Bretons.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier. Merci, à demain.
À demain.